qui ouvre tout droit la deuxième partie de cette conférence de presse, la partie questions-réponses. Et comme d'habitude, je vais vous demander d'éteindre vos portables ou de les mettre sous silencieux. Nous avons avec nous les collègues de l'équipe pays qui sont à l'arrière et qui pourraient répondre à d'éventuelles questions. Vous les connaissez très bien. Il y a notre collègue de la CPI, il y a d'autres collègues humanitaires, je crois. Non ? Oui. Dans tous les cas, Joseph Potopoto est là et je suis sûr qu'il pourra relever le défi des questions. Hein. Donc voilà, nous allons rester ici à Kinshasa. Désolé pour la semaine dernière, nous avons eu des problèmes techniques entre Goma et Kinshasa et je crois que la retransmission sur Radio Okapi en a souffert un peu. Aujourd'hui, vous voyez que la technique est de notre côté, donc bon, on pourra s'entretenir pendant les 30 prochaines minutes qui nous restent. Nous allons prendre une question sur la gauche. Hein. Je sais que la droite, on a une dame juste derrière et ensuite on viendra ici.
Merci pour la parole. C'est Auricia Sakiri qui pour le compte de Télé7. Ma question s'adresse à M. Charles Bambara. Monsieur, les quatre organisations internationales viennent de décider de la mise sur pied d'un panel de facilitateurs. Peut-on connaître les noms de différents délégués à ce panel?
Merci. Il ne s'agit pas des quatre, vous parlez de quelles quatre organisations? L'Union africaine, l'Union européenne, l'OIF. Nous n'avons pas décidé de mettre en pied un panel de facilitateurs. C'est le facilitateur lui-même, comme vous le savez, qui a mis en place un groupe technique pour commencer la préparation du dialogue national. Et je crois qu'il a joué à son niveau de ses prérogatives qui sont les siennes pour la facilitation de ce dialogue national. Nous savons que ce groupe technique est déjà en place, commence à travailler, mais vous savez que l'objectif final, c'est vraiment d'avoir au sein de ce groupe de préparation du dialogue national l'ensemble, les délégués des différents partis politiques. Ce travail continue. Vous savez qu'il y a ce conclave à Bruxelles. Nous pensons que de ce conclave, on pourrait effectivement avancer sur ce terrain-là pour aller vers ces élections en désignant éventuellement, nous ne savons pas bien sûr dans les détails l'ordre du jour de cette rencontre, mais nous pensons que effectivement cette rencontre devrait pouvoir être une occasion pour la classe politique de l'opposition de se mettre d'accord autour des délégués, par exemple au dialogue national qui doit les représenter. De l'autre côté, nous savons que la majorité semble dire qu'il l'a, même si la liste n'est pas officiellement annoncée, que la liste de ces délégués à ce forum de préparation du dialogue national est déjà prête. Et donc, voilà, c'est vraiment le facilitateur qui, à son niveau, donc, a préparé et a donc choisi cette liste de délégués au niveau du dialogue pour la préparation du dialogue national. Voilà ce qu'on pouvait dire. Nous allons prendre une question là, ensuite on viendra à vous. Hein. Il y a beaucoup de mains aujourd'hui, c'est tant mieux.
Guy Oloume, RTNC2 Développement. Monsieur Joseph Potopoto, vous déplorez le climat délétère qui prévaut à l'est du pays suite aux enlèvements des humanitaires. Alors la question se pose, les humanitaires vont-ils dans le territoire à risque sans convoi militaire?
Joseph, quelques éléments de réponse.
Oui, quelques éléments de réponse, c'est vrai. Il y a certaines zones où les humanitaires se déplacent avec des convois de militaires. Je ne suis pas humanitaire. Moi, j'ai un projet dans le Rutshuru avec une radio qui est basée là-bas, Radio Dorica, qui est basée à Niamilima. Lorsqu'il m'était demandé d'aller visiter cette radio, évidemment, il y avait ces cas d'enlèvement aussi de staff de Nations Unies, des humanitaires, et j'étais accompagné par un convoi militaire. Je crois que généralement, ils sont avec des convois militaires, mais il arrive parfois, parce que on peut aller dans une zone qui semblait n'est pas insécurisée, et parfois on tombe comme ça, une zone sécurisée, mais parfois il y a de bandits qui surviennent alors que la zone était censée être sécurisée. Donc ils sont parfois surpris par de bandits qui interviennent parfois dans des zones même qui sont sécurisées. Donc c'est ça un peu la difficulté qu'on a. Merci.
Nous n'avons pas les confrères des organisations humanitaires avec nous. Vous savez qu'il y a un voyage média organisé en ce moment dans l'ouest du pays, à Bandaka, Badolité. Beaucoup sont sur ce voyage média, mais il faut dire que l'offre de protection sécuritaire au niveau de toutes les organisations qui travaillent dans l'est du pays est offerte et non seulement par les FARDC, par la force de la MONUSCO, mais effectivement il faut que nous soyons au courant et que le désir s'exprime parfois. C'est pas toutes les organisations qui spontanément voudraient l'appui des forces de sécurité ou de la ou des FARDC ou de la police MONUSCO. Certains se disent nous pouvons nous-mêmes essayer d'évoluer sur ce que nous faisons en appui sur le terrain de l'appui humanitaire sans cette aide-là, mais toujours est-il que lorsque nous sommes au courant, nous sommes disposés et prêts à les accompagner pour assurer leur protection. Nous restons là un peu plus à côté avant de partir à Goma. Je sais qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui à Kinshasa, mais il nous faut quand même partir à Goma ensuite. Allez-y.
Lukunga pour le journal Le Paris. Deux petites questions, des questions expéditives.
Une question s'il vous plaît, parce qu'il y a Goma.
Bon, pour monsieur Potopoto, c'est un besoin de curiosité seulement. J'aimerais savoir, l'histoire générale de l'Afrique a été traduite, comme vous venez de le dire, hormis le français et l'anglais, en trois langues africaines, le swahili, le peul, le haoussa. J'aimerais savoir, le choix de ces langues répondait à quels critères, d'autant il est vrai qu'on a mis... On n'a pas pris en considération le lingala, qui est une langue à vaste couverture ethno-géographique. Cette langue n'a pas été prise en considération alors qu'elle est parlée dans plus de 7 pays, notamment la République démocratique du Congo, Congo-Brazza, Angola, Gabon, Centrafrique, Cameroun, jusqu'à même en Côte d'Ivoire. Ça doit représenter plus de 900 millions de personnes. Pourquoi on n'a pas pris en considération cette langue?
Je crois que le travail n'est pas encore fini. Nous avons reçu cette même question lundi lors des échanges qu'on a eu avec... les amis à l'intervenus. Les trois langues ont été choisies aussi parce qu'elles sont parlées dans plusieurs pays. Le Swahili aussi est parlé dans plusieurs pays, même que le peul, le haoussa. Mais je crois que le besoin sur le plan de l'éducation, sur le plan de la formation dans les pays comme la RDC, c'est souvent l'enseignement est plus donné en français. Je crois qu'on a pu, on a tenu compte d'abord de cet élément parce que chez nous, ici, l'enseignement est donné en français. Nous avons déjà une version française de ce 8 volumes de l'histoire africaine. Si la RDC ressent un besoin ou d'autres pays où on parle lingala ressentent un besoin de pouvoir avoir cet ouvrage dans le langue comme la langue comme les lingala, je crois que le travail sera fait.
Direction Goma pour prendre deux questions. Goma, c'est à vous.
Merci beaucoup, monsieur Charles. C'est Guylaine Baloumé pour le journal Gouvernance Plus Africa Connection Kinshasa. Ma question est de savoir, à ce qui concerne le soutien au dialogue en RDC par les partenaires dont vous faites partie, est-ce que cela ne serait pas une manière de rendre nulle et sans effet la résolution 2277 qui stipule la tenue des élections dans les délais constitutionnels, ou juste la MONUSCO veut suivre la direction où le vent l'amène? Merci.
Bon, la question n'est pas très claire, mais ce que j'ai compris, je vais essayer de coller à ce que vous essayez d'exprimer. C'est pas la MONUSCO ou c'est pas le Conseil de sécurité qui suit la MONUSCO, c'est la MONUSCO qui, au regard de ce que dit le Conseil de sécurité, notamment dans cette résolution dont vous faites allusion, la 2277, c'est nous qui essayons de voir ce que le Conseil, à travers cette résolution, demande à la MONUSCO de faire. Et je crois que c'est très clair. Hein. Je voulais à plusieurs fois dire, revenu dessus, par rapport au dialogue, le Conseil de sécurité souligne par exemple l'importance d'un dialogue véritable pour que les élections présidentielles et législatives soient pacifiques, crédibles, conformes à la Constitution, et appuie donc la décision de l'Union africaine d'engager les consultations sur ce dialogue. Et c'est ce que nous, au niveau de la MONUSCO, nous essayons de traduire en actes concrets à travers notre soutien à M. Edem Kodjo, à travers notre soutien à sa médiation, médiation non seulement pour voir ce dialogue politique engagé, mais aussi pour les efforts en vue donc au niveau de la CENI, de l'organisation donc de ces échéances électorales de façon crédible, transparente, etc., dans un climat apaisé. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à votre question. Nous restons à Goma pour prendre une autre question.
Oui, je reprends notre Blaise Pascal pour le compte du journal Essentiel. J'aurais posé la question justement à Monsieur Charles, excusez. C'est une question de curiosité. Hein. J'aimerais que vous puissiez sincèrement nous dire si, franchement, vous y croyez à une issue favorable à ces assises, c'est-à-dire le dialogue entre Congolais. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il va finalement se tenir ces dialogues? Parce que tel que le tableau est peint aujourd'hui, et au niveau de l'opposition, qui jusque-là, il y a certains composants de l'opposition qui n'ont pas participé jusqu'à ce jour aux assises de Bruxelles, notamment l'UNC et l'OMLC, qui sont de partis assez importants quand même de l'opposition, mais qui aujourd'hui ne font pas partie ou qui déclinent carrément l'invitation. Est-ce que vous y croyez à ce dialogue finalement?
Je n'ai pas à vous donner mon point de vue personnel. Je suis là au nom de la MONUSCO et je peux vous dire qu'une fois de plus, en ouverture de cette conférence de presse, je vous disais très clairement que l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie croient en ce dialogue et ont fait un communiqué au début de cette semaine, le lundi dernier, appelant donc les acteurs politiques à s'engager résolument dans cette voie politique-là. Il se trouve que, vous allez voir, il y a une constance de la communauté internationale à ce niveau, et cette constance, il faut le reconnaître, c'est d'appeler les uns et les autres. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait un consensus. Nous pensons que, d'une façon ou d'une autre, le dialogue devrait se tenir, mais nous voulons qu'il se tienne avec le maximum d'acteurs autour de la table pour qu'il y ait vraiment, à l'issue de ces concertations, à l'issue de ce dialogue, une vraie feuille de route politique qui puisse dicter donc la marche à suivre pour les semaines, pour les mois à venir, et c'est ce qui est important. Et nous allons à nous, au niveau donc des Nations Unies, apporter notre concours à cela, de façon déterminée aux côtés de M. Edem Kodjo, qui également se bat pour que ce dialogue ait lieu. Et nous pensons que, avec le soutien réaffirmé de la communauté internationale, il y a des chances que ce dialogue ait lieu, et il y a des chances aussi qu'il puisse déboucher sur quelques résultats qui pourraient en tout cas nous permettre de voir plus clair sur la feuille politique dans les semaines, dans les mois à venir. Nous allons peut-être prendre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, rester à Goma pour prendre une troisième question et revenir ensuite ici pour prendre, je vois qu'il y a beaucoup de questions en attente, et nous allons revenir ici. Goma, troisième question.
Oui, moi c'est Malvika Laval, Amérique Service Swahili. Juste hier, il y a une délégation qui est venue des Nations Unies. Je pose la question à Charles Bambara. Ils ont dit qu'ils donnent beaucoup d'argent à la MONUSCO, ici en République démocratique du Congo. Et qu'ils ont été à Beni, là où on a tué les gens, que telle chose ne pourra pas se répéter. Est-ce que si telle histoire se répétait, il y a un commandant des Nations Unies que vous allez emprisonner ou apporter à la justice? Prenons le cas de Ringeti où on a tué les gens juste à quelques 100 mètres de Népalais. Merci.
Il s'agit sans doute de la visite du groupe que nous appelons en termes diplomatiques le groupe P3, visite donc des responsables de l'ambassade américaine, britannique et française qui effectivement étaient en compagnie de David Gressley, l'adjoint au représentant spécial, et qui ont visité effectivement Beni, Irengeti, Luna, où a eu lieu effectivement les massacres des ADF dans cette zone il y a quelques jours. C'était pour eux une façon d'aller à la rencontre des populations pour présenter leurs condoléances aux familles éplorées dans la zone, et puis pour les réconforter, et puis leur dire que, au nom de la communauté internationale, ils sont aux côtés de ces populations affectées par les violences commises par les ADF dans cette zone. Et vous savez que depuis lors, les FRDC ont lancé une opération Oussalama, appuyée fortement par donc la MONUSCO, et nous avons dit au cours des semaines précédentes que quelques résultats ont déjà été enclenchés. Nous attendons du côté militaire FRDC, MONUSCO, d'autres points sur l'avancée donc de cette opération sur le terrain. Mais il faut dire que de façon globale, ces délégués de la communauté internationale représentés par les ambassadeurs ou leurs représentants des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne voulaient vraiment montrer leur solidarité avec ces populations du Grand Nord affectées par les violences récurrentes dans cette zone et montrer leur détermination aux côtés de FRDC et de la MONUSCO pour enrayer, anéantir et neutraliser ces forces négatives qui continuent malheureusement, comme vous le savez, d'opérer dans la région, mais beaucoup moins déjà depuis le déclenchement de l'opération Oussalama qu'il y a quelques semaines, comme vous le savez. Revenons ici donc à Kinshasa. Je vais dire, il y a une maître dame, ensuite celle-là, et ensuite on viendra ici.
Bonsoir Ndolé pour l'agence France Presse. Apparemment, je ne vois personne du bureau des droits de l'homme. Alors, j'adresse ma question à M. Charles. Hier, le ministre de l'Intérieur a rendu public les rapports de l'opération Lucofi. Et on se souvient que les chefs du bureau conjoint des Nations Unies avaient été expulsés à la suite de cette opération, quand l'ONU avait rendu public son rapport. Et aujourd'hui, comment la MONUSCO réagit au rapport officiel? Et dans ces rapports, on n'a pas donné... la MONUSCO avait, le bureau conjoint du moins, avait avancé le nombre de morts, mais dans les rapports hier, dans la présentation du rapport, les officiels n'ont pas voulu utiliser le nombre de morts comme trophée. Merci.
Oui, nous avons suivi effectivement la présentation du rapport interne du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité de l'Intérieur, Monsieur Évariste Boshab, un rapport présenté à la presse effectivement, où il revenait sur les grandes lignes de leurs conclusions, les conclusions donc de ce rapport interne, de l'opération Lucofi qui avait été menée donc entre novembre 2013 et février 2014. Deux ans après, donc, ou un peu plus de deux ans après, ce rapport tombe. Nous, ce que nous pouvons dire au niveau de la MONUSCO, c'est que nous avons toujours, comme vous le savez, lors de la présentation des différents rapports sur la situation des droits de l'homme, nous avons toujours partagé nos conclusions avec les autorités compétentes des différents ministères, que ce soit le ministère de la Justice, que ce soit le ministère de l'Intérieur. Nous avons toujours partagé avec eux donc les conclusions de nos différents rapports. Et effectivement, quand le rapport dont vous faites allusion et qui a effectivement épinglé notre collègue Scott Campbell à l'époque, le déclarant d'ailleurs persona non grata, nous avons à l'époque partagé non seulement dans les conclusions ce que nous avions pu trouver, c'est-à-dire premièrement l'usage disproportionné de la force. Il s'agissait aussi de quelques arrestations ou de quelques gardes à vue prolongées sans justification, j'allais dire solide du point de vue légal. Donc ce rapport contenait un certain nombre de faits qui ont été d'actualité et qui, je crois, dans le rapport qu'a présenté M. Bouchard, essayait de répondre un peu à ces quelques points que nous avions soulevés. Vous saviez qu'à l'époque aussi, les conclusions que nous avions faites dans notre rapport étaient beaucoup moins sévères, d'ailleurs, que certaines ONG internationales des droits de l'homme qui s'étaient par la suite élevées aussi sur la conduite un peu des opérations autour de l'opération Lucofi. Aujourd'hui, nous prenons acte de ce que le gouvernement a produit hier. Nos confrères du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme sont en train d'étudier maintenant ce rapport-là. Il ne sert à rien de se préciser pour faire des déclarations et je crois que le moment venu, ils viendront effectivement vous présenter, vous dire exactement ce qu'ils pensent des contenus de ce rapport. Ils ne sont pas effectivement à Kinshasa aujourd'hui, mais ils pourraient revenir dessus dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent sur ce rapport. Voilà ce que je peux dire, madame. Oui, on reste avec vous.
C'est Lauriane Landou du journal La Prospérité. Monsieur Charles, je reviens au communiqué conjoint des quatre organisations partenaires de la RDC. Ce communiqué, n'est-ce pas une réponse à la proposition d'Étienne Tshisekedi qui veut qu'il y ait un panel de facilitateurs internationaux pour le dialogue?
Ce communiqué est un communiqué qui appelle, et je l'ai dit très clairement, la classe politique congolaise à aller vers le dialogue de façon résolue pour régler les problèmes politiques qui existent autour du processus politique en cours. Vous savez qu'il y a beaucoup d'incertitudes quant au calendrier électoral. Le dialogue national n'est pas toujours tenu, même si on avance. Même si on avance petit à petit vers ce dialogue-là. Donc, ce communiqué rappelle aux uns et aux autres qu'il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts particuliers des uns et des autres pour que, justement, on puisse s'entendre, on puisse se mettre d'accord sur une feuille de route consensuelle afin de sauver ce qui peut être sauvé et d'aller vers des élections calmes et apaisées. Et je crois que c'est ce qui compte le plus, et c'est vraiment là, je peux dire, l'angle sous lequel il faut voir ce communiqué, et non pas une réponse à Monsieur Tshisekedi. Non, c'était pas le cas. C'était une volonté réaffirmée de la communauté internationale à travers ces quatre organisations d'appeler donc les uns et les autres à marcher résolument vers un consensus politique autour du dialogue et autour des enjeux politiques de l'heure. Prenons une question là, je crois qu'il y avait une main derrière, mais je vois une main devant.
Alain Mouzi pour la radio SCC. Monsieur Charles Bambara, il y a eu une fraction dissidente des FDLR qui souhaite retourner au Rwanda d'une manière digne et participer au dialogue au Rwanda. Est-ce que la MONUSCO est prête pour accompagner cette volonté?
Bien entendu, nous sommes prêts pour accompagner cette volonté. Nous ne savons pas pourquoi ils ont attendu d'ailleurs 20 ans après pour demander le retour au Rwanda. Ils auraient pu le demander depuis très longtemps. Et je crois qu'il faut lier ça à l'opération qui a été lancée par les FRDC, que nous soutenons, nous, au niveau de la MONUSCO, de toutes nos forces. Cette opération a commencé effectivement il y a quelques jours, maintenant presque une dizaine de jours. Et face à la montée en puissance des FRDC donc sur le terrain, appuyée par la MONUSCO, je crois que les uns et les autres se disent, il est peut-être temps de rentrer à la maison. Oui, il est temps de rentrer à la maison. Donc au Rwanda, ils nous seront prêts à accompagner ce processus de retour des FDLR dans leur pays. Vous savez que depuis pratiquement ces 10-20 dernières années, la MONUSCO a raccompagné au Rwanda beaucoup de militants, de combattants FDLR, 12 000 si ma mémoire est bonne, et nous allons continuer à faire ce processus jusqu'à ce que le problème FDLR n'existe plus ici en RDC. Est-ce que nous n'allons pas partir? Je vais prendre une dernière question avant de partir à Goma. Voilà, allez-y. Allez-y.
Merci pour la parole, Pasteur Tshibangu pour le scribe. Monsieur Bambara, eu égard au rapport MONUSCO gouvernement et gouvernement ONG internationaux, la MONUSCO se présente comme étant un maillon faible devant le gouvernement, car Scott Campbell a été remercié, déclaré persona non grata, tandis que d'autres ONG ont été plus sévères, vous l'avez souligné, mais qu'est-ce qui fait que vous puissiez être aussi faible devant le gouvernement?
Bon, merci pour la question. Il faut dire que nous avons des rapports de partenariat intense avec le gouvernement. L'adjectif que vous avez utilisé ne relève ou ne concerne que vous en réalité. Nous avons d'excellents rapports avec notre partenaire qui est le gouvernement à tout point de vue. Le patron de la mission, le représentant spécial, a des rencontres régulières avec non seulement le chef de l'État, mais plusieurs ministres du gouvernement. Il en va de même pour les autres membres du leadership de la mission, comme l'adjoint du représentant spécial, M. Gressley, M. Mamadou Diallo, etc. Nous avons des relations réellement de partenariat intense, et toutes les questions se discutent. Hein. Aucune question n'est vraiment interdite lors de ces rencontres, et je pense que c'est le climat de confiance qui a été relancé, qui a permis au chef de l'État de donner son feu vert pour la reprise des opérations conjointes ou Salama autour du territoire de Béni. C'est aussi le signal fort qui a été donné avec la reprise des opérations contre les FDLR dans la zone, dans la province du Nord Kivu, etc. Donc, il n'y a pas, ce que vous dites là n'existe pas en réalité. Nous avons d'excellentes relations, je peux le dire, avec nos partenaires que sont le gouvernement. Direction Goma, où nous allons prendre peut-être une ou deux questions avant la fin de cette conférence de presse. Goma, première question.
Allez-y, prenez le micro.
Bon, moi c'est Saïd Abassonadjid pour Moutan FM. Je voulais poser la question au colonel Amzou. Colonel, il n'y a pas longtemps, vous nous avez présenté la guerre qu'amène les ADF au niveau des Béni, que c'était une guerre asymétrique. L'un de vous demander de nous étaler les techniques militaires, parce que moi je ne le suis pas. Je voulais savoir la proportionnalité. Si nous pouvons voir la MONUSCO, vous êtes regroupé quelques 6 ou 7 armées, plus le FRDC, ça devient 8. Donc dans toutes ces armées-là, il n'y a pas une technique que vous pouvez proposer à cette guerre asymétrique, parce que ça fait longtemps que vous nous avez fait comprendre que la guerre à Béni, les massacres à Béni, ça se justifierait mieux parce qu'il y a une guerre asymétrique. Comment vous ne parvenez pas à contenir cette guerre de ce système-là?
Merci.
Merci, monsieur le journaliste. Une guerre asymétrique, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est qu'une guerre asymétrique. Je vous l'explique. Je parle de la guerre conventionnelle, ce que nous, militaires, nous menons sur le terrain. C'est-à-dire, quand vous avez une troupe de 10 personnes ou 12 personnes, nous savons l'arme utilisée par ce détachement. Par exemple, si je donne l'exemple, une arme collective est utilisée par un groupe de 10 à 12 personnes. Dans un groupe de 10 à 12 personnes, on n'a qu'une seule arme collective. Et nous n'avons pas de machette pour aller découper. Et quand vous entendez un bruit, c'est-à-dire un coup de feu quelque part d'une arme collective, vous savez automatiquement que c'est un groupe de 10 ou 12 personnes qui se trouvent à cet endroit-là. Mais si nous revenons aux ADF qui vont découper les populations civiles par des machettes, si vous prenez les ADF ou quand vous entendez un coup de feu parti, un coup de feu d'une arme collective parti, vous allez là-bas, c'est peut-être deux ou une seule personne qui tire à l'arme. Ça ne répond pas aux normes conventionnelles. Donc c'est de là que nous parlons de guerre asymétrique. Des ADF qui vont découper des gens avec des machettes. Des ADF qui vont peut-être et couper les routes et s'attaquer aux FADC tout en sachant que les FADC sont très bien équipés, ils sont lourdement même armés, mais ils viennent avec quelques armes attaquer et c'est ce que nous appelons nous militaires harcèlement. Donc ils viennent, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire, mais ils viennent tout juste pour s'attaquer à eux et puis repartir, pour les empêcher d'accomplir leur mission. Si nous prenons par exemple le cas de l'opération qui est en cours à Béni contre l'ADF, nous sommes à l'est du Ringeti, nos troupes avancent sur le terrain, au même moment dans notre arrière, les ADF viennent tout juste pour nous distraire. C'est de pouvoir nous écarter de notre mission principale.
Merci, nous restons à Goma.
Nous sommes 8 armées que nous pouvons venir à bout de l'ADF. Je ne peux pas dévoiler ici notre stratégie. Mais toutefois, ce que nous demandons à tous les acteurs qui sont impliqués dans ce processus de neutralisation des groupes armés, c'est de collaborer nettement avec la force de la MONUSCO et les forces de sécurité et de défense congolaises pour que nous puissions arriver à bout de ces criminels de l'ADF. Nous demandons également aux populations civiles de se désolidariser des éléments de ces groupes armés pour pouvoir collaborer, nous renseigner pour que nous puissions les protéger. Et nous demandons également à ces éléments de groupes armés de se dissocier de leurs leaders pour adhérer au processus de désarmement. Merci beaucoup.
Goma, une autre question avant de revenir ici. Au moins, on va prendre deux ou trois questions ici avant de boucler cette conférence de presse. Goma, une autre question.
Merci beaucoup, c'est Albert. Oui, merci beaucoup, c'est Albert Toulinabo du journal Le Peuple Souverain. Ma question, je la pose à Monsieur Potopoto. C'est par rapport au communiqué de presse, au café de presse d'hier. Il fallait attendre, Monsieur Potopoto, la mort d'un travailleur humanitaire le 6 mai dernier pour dénoncer les attaques contre les humanitaires, alors que vous avez observé depuis le début de 2016 11 travailleurs enlevés. Merci.
Bien, je vais passer la parole à mon collègue de Otia qui vient de nous rejoindre. Je crois qu'il a mieux placé pour vous répondre à cette question.
Edmond, tu peux répéter la question peut-être pour lui.
Voilà. On a attendu, d'après ce journaliste, il veut savoir pourquoi a-t-on mis beaucoup de temps pour faire un point de presse et déplorer le meurtre des humanitaires, alors que la situation perdure depuis 2015.
Alors, bonjour à tous. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que, effectivement, depuis 2015, la situation sécuritaire est très inquiétante. Mais le travail que nous faisons par rapport à avoir des garanties sur l'accès, nous ne le faisons pas tout le temps dans le domaine public. C'est un travail qui est fait avec les autorités, avec les autorités provinciales au niveau de Kinshasa. Il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions, beaucoup de dialogue qui est fait, qui n'est pas forcément mis devant les journalistes. Donc, il faut comprendre que lorsque nous, humanitaires, c'est pas vraiment dans notre style, lorsque nous venons devant la presse, c'est qu'il y a vraiment un certain ras-le-bol, un niveau de frustration qui commence à être au-delà de la norme, et on veut le porter à la connaissance de tous. Voilà, donc on n'a pas forcément attendu le plaidoyer pour la protection non seulement des humanitaires mais aussi des personnes civiles qui sont en fait beaucoup plus importantes que nous se fait de façon continuelle avec les autorités.
C'est vrai que lié à cette question, il y avait cette question qui avait été émise auparavant et qui demandait pourquoi les organisations humanitaires ne se font pas accompagner par les forces de sécurité pour les protéger justement contre les enlèvements dans l'est du pays.
Alors, il y a un principe au sein de la humanité qui est en fait pour des raisons d'indépendance et de ne pas se faire assimiler à certains, dans le cas précis, si on se fait accompagner par des militaires, on pourrait être assimilé à une force comme la MONUSCO. Donc nous préférons utiliser de nos propres moyens, nous préférons utiliser les plaidoyers que nous faisons avec les leaders locaux, avec les populations, afin d'avoir accès à ces villages, à ces communautés. Donc en règle générale, et ça se passe je dirais même à 99% des cas, on préfère ne pas se faire accompagner pour ne pas être pris pour cible lorsqu'on se retrouve dans des zones où les choses sont un peu tendues.
Voilà, nous allons prendre une question là. Vous voulez poser une question? Ok, vous avez le micro toujours.
Pour le compte de l'explorateur, j'ai une préoccupation à Monsieur Charles Bambara. Est-ce qu'on peut-on dire, se poser la question, que Monsieur le facilitateur Edem Kodjo a échoué à sa mission?
C'est un peu trop tôt pour le dire. Hein.
Oui, parce qu'au fait, pour dire que les comités préparatoires, soi-disant, Il a fait de va-et-vient. Et aujourd'hui, nous attendons la tournure pour dire, tout autour du président Étienne Tshisekedi, l'opposition y est. Et ça s'est décidé aussi aujourd'hui. Est-ce que lui, il est effacé, ou sauf pouvoir, il va reprendre son bateau de pèlerin pour nous dire et qui nous amène à bon port à travers ces dialogues? Je vous remercie.
J'ai rencontré récemment, quand je dis récemment, il y a peut-être une dizaine de jours, Monsieur Edem Kodjo lui-même, et je l'ai invité à la conférence de presse ici, et j'espère qu'il m'a dit d'ailleurs qu'il aime rencontrer la presse, et il va venir vous rencontrer ici. Je ne sais pas quand on est en train de discuter, de travailler sur les dates. Je crois que vous pourriez lui poser toutes ces questions. Je crois que ce serait une bonne échange, une bonne opportunité d'échanger d'ailleurs avec lui, la presse nationale, la presse internationale sur toutes ces questions. Je vais essayer de le relancer pour voir quand est-ce qu'il pourra venir et échanger avec vous ici. Mais réellement, je crois que personne ne s'attendait à ce que ce dialogue politique en RDC soit facile à convoquer. Les dissensions au sein de la classe politique sont profondes. Il y en a qui sont pour, il y en a qui hésitent, il y en a qui sont contre. Et pour ramener tout le monde autour de la table, c'est vraiment un travail de titan ou un travail d'Hercule dans tous les cas. Je ne pense pas que M. Kodjo se laisse perturber par cette situation difficile. Au contraire, je l'ai vu, en tout cas lorsque je l'ai rencontré, très déterminé à mener ce processus avec tous ceux qui le souhaitent, avec lui et avec l'appui de la communauté internationale d'ailleurs. Et c'est ce qui m'a assez frappé. Il me dit comment ça se fait qu'avec le soutien que j'ai de la communauté internationale, le soutien que j'ai des Nations Unies, le soutien que j'ai de l'Union Européenne, etc., des différents pays occidentaux, les gens continuent à penser que nous ne bougeons pas. Nous bougeons, c'est vrai que nous ne bougeons pas aussi vite que nous le pensons nous-mêmes, mais nous bougeons quand même et nous pensons que cette échéance, qu'est le dialogue politique, va avoir lieu. Et je lui dis, bon, ce serait bien que vous veniez justement vous expliquer tout ce que vous faites, car il y a ce que vous voyez, mais il y a tout ce que vous voyez pas aussi, hein. Et beaucoup de choses se font, je dirais pas dans les couloirs, mais en tout cas derrière les rideaux, à son niveau directement, au niveau justement de la communauté internationale pour appuyer ce dialogue. Et beaucoup me disent d'ailleurs, entre ce qui se dit officiellement et ce qui ne se dit pas, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Mais une fois de plus, lorsqu'il sera là, je crois qu'il pourra vous éclairer davantage. Dernière question, s'il y a une question brûlante. Bon, je vois une seule main.
C'est Isaac Ngwenza pour le compte de Congo Opportunities Media. Je pose ma question au colonel Amouzou. L'année passée, j'ai été à Beni avec le général Jean Bayo. Les ADF Nalou qui maltraitent ou qui tuent la population de Beni n'est pas comme le M23. Qui était un mouvement structuré, organisé, bien installé. On sait qu'il se trouve dans tel territoire. Il combattait avec les FARDC. C'était, je pourrais dire, une guerre, comme on dit, traditionnelle. Mais les ADF agissent en guérilla, c'est que je sache quand j'étais là. Ils viennent, ils opèrent, ils disparaissent. Mais j'ai suivi le colonel qui vient d'affirmer que les ADF prennent le courage de venir et s'attaquer aux FARDC. Au moment où ils apparaissent, pourquoi ne pas le traquer ou le pourchasser jusqu'à le neutraliser? C'est ça un peu ma préoccupation. Merci.
Je suis sûr que le colonel va vous dire que chaque fois qu'ils sont harcelés, comme il le dit, il a dit tantôt, il y a une riposte à la fois des FARDC et de la MONUSCO. Ils se laissent pas distraire toujours et puis ils disent, bon voilà, c'est tout, on n'y peut rien. Je crois qu'il y a une forte résistance, il y a une forte réponse, non seulement des FARDC, mais de la MONUSCO, chaque fois qu'ils sont en contact. Et les militaires vous le disent souvent, chaque fois qu'il y a contact, les ADF préfèrent éviter le contact frontal pendant longtemps et prennent, c'est une zone de forêt dense, donc ils préfèrent aller s'en prendre à des populations qui sont laissées à elles-mêmes. Et c'est vraiment dommage, c'est ce qui fait que cette guerre asymétrique est vraiment compliquée sur le terrain. Il n'y a pas souvent une confrontation frontale avec les ADF. Chaque fois qu'il y a point de contact, ils disparaissent dans la nature, on essaie de les poursuivre, mais dans la forêt, réellement, avec toute la bonne volonté, c'est pas toujours facile de suivre les gens, mais c'est ce qui fait que justement les combats traînent un peu, c'est difficile d'avoir des résultats concrets, mais la question était plutôt adressée au colonel, je crois. Colonel.
Vous l'avez déjà répondu. L'ADF, c'est du terrorisme. Et partout dans ce monde, partout les gens tentent de combattre le terrorisme. Et vous savez, ceux qui ont plus de moyens que nous combattent le terrorisme. Mais toujours est-il, il y a toujours le terrorisme partout dans ce monde. L'ADF, ils arrivent. Les terroristes, ils se sacrifient. quand ils viennent attaquer, vous n'êtes pas bien armé, vous venez attaquer plus d'une centaine de personnes, vous êtes peut-être 4, 5 pour attaquer près d'une centaine de personnes. Ça, c'est du terrorisme. C'est des criminels. Hein? C'est des criminels. Donc, combattre les criminels, c'est très, très difficile. C'est très difficile. C'est pourquoi on parle de guerre asymétrique. Et quand on parle de guerre asymétrique, il faut comprendre. Les gens qui viennent avec des machettes pour combattre, pour aller contre ceux qui ont des armes, peut-être ils ont 2, 3 armes, ils sont peut-être 10, un groupe de 10 avec 3 ou 4 armes pour combattre ceux qui ont tous des armes. C'est difficile. C'est incompréhensible. Hein? C'est incompréhensible. Et quand ils arrivent, ils tirent 1, 2 fois, ils disparaissent, ils rentrent dans la forêt. Et il faut vous dire que c'est des éléments qui sont implantés, qui sont dans ces localités pendant plus d'une vingtaine d'années et ils connaissent bien la forêt. Ils connaissent bien le terrain. Ils savent par où passer, par où venir pour attaquer. C'est comme des bandits qui viennent attaquer une maison. Vous ne savez pas quand est-ce qu'ils arrivent. Merci beaucoup.
Fin de cette conférence de presse, à la semaine prochaine.
Merci.